C'est l'artichaut.
Artichaut, le moment où on parle d'art.
Cette émission qui parle d'art, d'art, d'art.
Bonsoir auditeurs, auditrices de RDIWA. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur les ondes du 101.7 et du 107.5. Vendredi dernier, on vous a accompagné en musique parce qu'il fallait laisser du temps à la créativité, hein, comme je vous l'avais mentionné. Mais c'est une carotte plus motivée que jamais qui nous revient après l'émission manquée de la semaine dernière. Et bah bonsoir à toi, Carotte, re-bienvenue dans nos studios préférés.
Malo, merci Malo, mon trésor, mon amour. Eh bien aujourd'hui, j'ai décidé d'entamer carrément un monument de la peinture et tu vas me servir dans cette histoire de petits miroirs à facettes, à multifacettes, parce qu'on va parler un peu de l'histoire de l'autoportrait, parce qu'au cours du XXe siècle, là, on va voir pas mal d'autoportraits des artistes qu'on aime, et j'ai pensé que c'était bien d'en faire un petit historique, parce que si on traite de l'homme, de la philosophie, de l'individu, de la sociologie, de la psychanalyse, quoi de mieux que de se baser sur l'autoportrait, l'histoire de l'autoportrait.
J'ai bien envie de savoir ce que tu en penses.
Oh, mais j'adore la psy.
Mais j'adore la psy.
Donc je savais pas trop par où commencer, tellement c'est énorme. Mais je vais vous semer le trouble avec toute une série d'anagrammes, d'autoportraits, qui commencent par « Oh, tout partira » et qui pourraient finir par « Otari partout, rapportez tout »,« Topari, hurra, à tout pourrait » ou « Trop raté ». Donc, bon, il y en a plein, il y en a multiples et tout ça. Alors, par contre, au niveau littéral du mot, l'autoportrait, donc, dans les dictionnaires, ça apparaît super tard. En fait, je te parle carrément 1988, 1999. C'est un mot qui va apparaître pour nous très, 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 très tard.
Et tu saurais dire pourquoi, enfin, comment ça se fait? Même avec une idée plus philosophique et tout, sans dire les réponses précises, mais est-ce que tu as une idée de pourquoi c'est un mot qui, pour moi, ça me paraît en plus très...
C'est un singulier constat. On peut dire que carrément le mot autoportrait se refuse à lui-même. Donc dans le dictionnaire, donc là, ça dit Paul Robert. Donc en 1966, c'est entre autoplastie et autopsie. Donc il y a pas de place pour autoportrait. En 92, donc il pourrait y avoir autoportrait, mais il y a pas. Par contre en 88, il y a autoportrait, portrait d'un dessinateur, d'un peintre, exécuté par lui-même. Les autoportraits de Rembrandt, de Goya, de Van Gogh, point. Voilà, bon, ben voilà. Donc, on n'en saura pas plus. Après, j'ai trouvé, je me suis armée d'un énorme bouquin, hein, bien sûr. Donc là, je vais en tirer que des petits extraits. Donc, ça s'appelle « Moi », autoportrait du XXe siècle.
Et c'est pour les narcissiques ou quoi?
Justement, donc on a tort, à tort. On pense que l'autoportrait est purement narcissique, mais en fait, pas du tout.
T'as déjà fait l'expérience de l'autoportrait, toi, Carotte?
Justement, j'en fais... j'en ai recommencé un.
Oui, t'a inspiré du coup pour Artichaut?
C'est-à-dire que oui, évidemment, c'est la peinture qui m'a inspiré cette émission. Moi, je fais mon autoportrait à peu près tous les 10 ans. Mais bien sûr, c'est comme un voile de cinéma, c'est-à-dire que je vieillis pas. Et de toute façon, dès que tu commences à faire des rides, des fossettes et des trucs comme ça, donc ça le fait pas. Donc ça me permet de garder une intemporalité, tu vois, comme si j'avais été une actrice de cinéma à la belle époque. Et donc je peux me regarder, me re-regarder et me re-regarder au travers des âges et je ne vieillis pas. Par contre, la situation et mon environnement, bien sûr, changent. Mon état d'être et d'esprit, mon art de vivre, ma façon d'évoluer, mes déménagements, là où j'habite, mes chats qui sont morts ou pas. Tout ça est traité dans l'autoportrait.
Populaire. Tendance. Époustouflant, brillant, génial.
Alors, l'autoportrait. Donc, on peut commencer l'autoportrait par la collection. parce que tout commence par une collection. Donc, à 17 ans, Leopoldo de Médicis, donc ses dates, c'est 1617-1675, et c'est lui qui va commencer à collectionner une série qui va devenir fulgurante des autoportraits. Donc, il veut commencer par identifier les peintres de la Toscane. Donc, il va d'abord privilégier les artistes toscans. Donc, soit ils ont déjà fait des autoportraits, soit carrément, il va leur commander leur propre autoportrait. Et comme ça, il va commencer à les enquiller les uns derrière les autres. Et puis, ses successeurs vont en faire autant. Donc, lui, à sa mort en 1675, il y en aura environ 70. Puis, la collection va augmenter à travers les âges, comme premier, comme deux, comme trois, tout ça. Et donc, à la fin, genre, il y a une série, ben là, je te la montrerai en photo, mais de près de 300 autoportraits. Du coup, cette collection du prince des mécènes, du roi, roi des arts, vraiment celui qui aimait les artistes et qui les entretenait et tout ça. Donc, hop, il commence à faire une collection d'autoportraits fulgurantes. Donc, tout le monde se dit, waouh, super, faut faire de l'autoportrait, faut collectionner des autoportraits. Et donc, l'autoportrait va prendre une dimension, on va dire, historique et va s'inviter dans l'histoire de l'art grâce à Léopold de Médicis et ses successeurs.
Bonjour Erdiwa, alors j'apprends que René appelle maintenant quasiment tous les jours pour frimer la gloire de l'artichaut. Alors moi Salvador, je l'ai dit haut et fort, l'artichaut c'est le meilleur.
Alors ensuite, qu'est-ce qu'il en reste? Donc évidemment, les gars, les 300 noms qui sont rentrés dans le palais et qui sont là à la postérité. Bon, bah, eux, ils ont du bol parce qu'évidemment, on peut s'y référer au travers de l'histoire et on peut dire que donc ils sont entrés dans la postérité. Alors, la notoriété, eh ben, en fait, ni la notoriété, ni la célébrité et les honneurs dont elle se pare ne donnent l'assurance d'être admis par la postérité. Les peintres qui sont entrés dans la collection des Médicis auraient dû, doivent et devront méditer sur cette phrase de Chateaubriand qui dit « Nous avons la prétention d'entretenir des intelligences avec les races futures, mais nous ignorons, je le crois, la demeure de la postérité et nous mettons très mal son adresse. Ben » oui, parce que tu sais, on dit « va hériter à la postérité » et tout ça, mais on ne sait pas l'adresse de la postérité. Où donc demeure-t-elle?
Et donc, très philosophique tout ça, Carotte.
À fond, ben oui, parce que là, on touche à l'essence même... à l'essence même de l'homme, qui répond ben, à la question de ce qui était sur le temple d'Apollon. Donc, connais-toi toi-même. C'est une question identitaire, de l'identité de l'individu qui passe à travers l'espace et le temps et qui amène, qui amène justement sa sensibilité sur
son estime
ressenti,
de soi.
Oui, et aussi le constat social par lequel il est en train de traverser, ou le constat, on verra par Van Gogh, carrément de sa folie, parce qu'il va faire plein d'autoportraits quand il va être à l'asile de Saint-Rémy. Mais je pense qu'il n'est pas inutile de se souvenir de ce constat d'un journaliste qui était en Somalie et qui dit « Quand deux inconnus se rencontrent, ils commencent par répondre tous deux à la question « Qui suis-je ?» Donc en Somalie, ça se passe comme ça, c'est « Je suis Soba, de la famille d'Altmad Haldboula, du groupe de Moussa Ahai, du clan d'Asean Saïd, de l'union clanique Issac. » Et donc après cette entrée en matière, bon, ben, l'autre interlocuteur va décliner lui aussi à son tour tous les détails de sa filiation. C'est ce qui va définir les racines. Et c'est l'échange de ces informations qui est long, qui est essentiel, parce que les deux inconnus, ils vont ainsi déterminer s'ils sont unis ou divisés, s'ils vont s'embrasser et tomber dans les bras l'un de l'autre, ou s'ils vont s'agresser et se gueuler dessus à coups de couteau. Donc la relation personnelle, de la sympathie, de l'empathie individuelle, elles n'ont pas de sens, parce que leur relation, qu'elle soit amicale ou hostile, va dépendre des accords qui existent entre leurs deux clans. Tu comprends? Du coup, l'individu n'existe pas à ce moment-là. Il ne compte que comme élément d'une tribu. Et donc, ben voilà, c'est un peu le constat qui est le revers de l'affirmation. Donc, le sociologue, il doit insister sur le fait que l'individu, c'est une invention de la modernité qui est issue de la fracture avec nos anciens liens communautaires. Alors, ça, c'est pour justement répondre à la question « qui suis-je ? » Donc, il y a plein d'expressions aussi qui sont, par exemple, comme « les yeux sont le miroir de l'âme ». Où l'habit ne fait pas le moine, parce que aussi dans les autoportraits, les peintres peuvent s'adonner à se travestir ou à rentrer de manière anachronique et à se positionner dans des scènes où ils n'étaient pas. Moi, par exemple, puisqu'il s'agit de moi, il est clair que la plupart des portraits que je fais, c'est une part de moi-même. En fait, tous les portraits que je fais, on peut dire que c'est une facette ou un fragment d'un autoportrait de moi. Parce que les gens, comme je choisis les gens dont je tire le portrait et que je le fais avec amour, parce que je ne vais pas perdre mon temps à représenter des gens que je n'aime pas, évidemment, on peut dire qu'une part de moi leur ressemble, souhaite leur ressembler, veut s'identifier à la personne que je peins. Donc, il y a aussi ce côté-là de placer haut des vertus, de peindre des gens vertueux pour accéder aussi à leurs vertus, comme une photo vole l'âme de la personne. La peinture pourrait aussi prendre et attirer à elle et vers le peintre toutes les vertus de ce qu'elle est en train de peindre. Du coup, il y a aussi ce côté de qui on est, comment on se voit, et ce qu'on souhaite devenir. Alors, à ce propos, on peut parler aussi, dans l'histoire du portrait, de l'autoportrait, du lien qui va se faire d'une époque à une autre entre les artistes qui vont faire des autoportraits et rendre hommage à leur maître en se faisant à la manière de... Tu vois ? Tu vois un peu ce que je veux dire ? Ce n'est pas vraiment une forme de travestissement, c'est plutôt un genre d'hommage. Et du coup, quand on commence à voir les liens qu'il y a entre des formes qui sont pareillement considérées, on peut voir par exemple que Andrin Goltius, il va se retourner, enfin, il se retourne dans sa peinture, dans son autoportrait, en 1590. Et Ferdinand Holder va se retourner exactement de la même façon en 1891. Picasso va s'affubler d'une perruque du XVIIIe siècle vers 1897, exactement comme Rembrandt va se coiffer d'un turban oriental en 1631. Dali se peint de dos en 1935 devant Gala, qui pose comme Toulouse-Lautrec vers 1890. Et il la croque avec une feuille déployée sur ses genoux. Andy Warhol nargue le menton levé, qui fait face à une sérigraphie de 1964, exactement comme Giorgione toise quelqu'un qui dévisage son autoportrait qu'il a peint en 1498. Bon, et des exemples comme ça, j'en ai plein. On peut dire aussi que le douanier Rousseau s'est peint avec la tour Eiffel pour qu'on sache bien qu'il était parisien. Donc, on met son identité, on met sa filiation, sa tribu, à qui on appartient. Et comme ça, il y a un lien d'autoportrait en autoportrait tout le long de l'histoire de l'art. Entre
et de l'homme.
Et de l'homme, évidemment. Alors du coup, on peut parler aussi des concours. Parce qu'il y a, on pourrait dire que le portrait, c'est l'ultime art de l'artiste. Parce qu'évidemment, il veut bien le réussir, cet autoportrait. Et dans l'autoportrait, toute la finesse et tout le style de sa patte, de sa griffe, doivent être tout de suite identifiables. Et du coup, il y a Rembrandt qui, quand il va mourir, il va peindre sur son épigramme le même épitaphe que Zeuxis, qui est « Ma patrie est Héraclia, mon nom Zeuxis. Si quelqu'un dit atteindre les limites de notre art, qu'il me le montre et qu'il soit vainqueur. » Alors du coup, moi je ne savais pas, je ne connaissais pas cette histoire de l'épitaphe de Rembrandt, que d'ailleurs aucun de ses amis lui a dit « non mais t'exagères un peu » et tout. Donc du coup, je suis allée chercher sur Wikipédia qui était Zeuxis. Donc c'est un peintre d'environ 460 avant Jésus-Christ. Rien de ses œuvres ne nous est parvenu. Par contre, dans la littérature antique et au travers de l'histoire, plein de gens y font référence. Et je suis tombée sur... Pardon. Et donc, en cherchant à savoir qui était Zeuxis, je suis tombée sur une anecdote vraiment merveilleuse. Donc, à cette époque-là, ils étaient fans de trompe-l'œil. Comme on voit encore dans les mosaïques des villas de Pompéi, tu sais, genre, t'as un salon et puis en fait, il y a un dégagement sur un jardin avec un escalier, une perspective et tout ça. Donc, à ce moment-là, ils étaient à fond dans le trompe-l'œil. Donc, Zeuxis a l'air d'être spécialisé dans l'effet d'optique très réussi des trompe-l'œil qu'il faisait à son époque. Et donc, il y avait un concours entre lui et j'ai oublié le nom de son copain, et c'est con parce que lui on s'en souvient mais l'autre non. Et Zeuxis se décide à faire des grappes de raisin et il est super content de son œuvre, vraiment content. Elles sont tellement réalistes, on dirait qu'elles sont là. Et quand il les met à la collection, enfin qu'il présente ses grappes de raisin pour le concours, pardon je m'embrouille, il y a une nuée d'oiseaux qui arrive par derrière lui et qui se jette sur la toile pour commencer à picorer les raisins qui, bien sûr, n'en sont pas des vrais. Du coup, Zeuxis, flatté par un tel miracle et comprenant bien que la représentation est tellement vraie que ben, les oiseaux se sont fait avoir, considère tout de suite qu'il a gagné le concours. Et donc, il demande à son adversaire de bien vouloir soulever le rideau qui est là pour qu'on découvre enfin son œuvre, sachant qu'il est sûr d'avoir gagné le gros lot. Et en fait, le gars lui dit ben, « Non, je ne peux pas, non, je ne peux pas. » Il dit « Mais alors, je vous en prie, dégagez-moi, dévoilez votre œuvre. » Et en fait, le gars lui dit ben, « Non, le rideau, c'est mon œuvre. »
Époustouflant, brillant, génial.
L'art, c'est la vie. Et dans l'autoportrait, l'existence même de l'individu se joue à la vie, à la mort. Parce que rater son autoportrait, c'est comme rater sa vie. Ça va plus que rater l'œuvre. C'est un ratage de ta life. Parce que, évidemment, il n'y a pas de différenciation entre toi et la toile. Ce que tu fais, c'est l'extériorisation de toi que tu essayes de concentrer dans ton art.
Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays d'Erdiwa. Il me semble que la misère serait moins pénible dans le Diwa.
On fait une petite pause, on met une petite
ouais,
musique.
Ouais, d'ailleurs, j'ai trouvé une musique. C'est toujours un petit peu mon rôle, même si à chaque fois les émissions commencent en mode surprise, je sais jamais de quoi tu parles. Mais du coup, j'ai trouvé un groupe qui s'appelle D-Mob Happy et le titre, c'est Autoportrait.
You're worth it.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Artichaut. Vous venez peut-être comme moi de découvrir le groupe D-Mob Happy avec le titre Autoportrait. C'était une chouette découverte. Aujourd'hui dans l'épisode de l'Artichaut, on parle de l'autoportrait. L'autoportrait pour aller vers soi.
Alors j'ai trouvé aussi un paradoxe, mais un truc de ma boule, quoi, que je ne savais pas. Donc, pendant des siècles, il y a un profil de vieillard coiffé d'un bonnet rouge qui est dans un tableau du Titien qui s'appelle l'Allégorie de la Prudence et qui n'a pas été reconnu pour être celui de Titien par lui-même.
Vous êtes bien sur Radio Diwa. Ouais.
En fait, le maître de l'autoportrait, il est anonyme. On ne sait pas qui c'est. Donc, si tu ne mets pas sur ton tableau que c'est ton propre autoportrait et que tu le signes, personne ne peut savoir que c'est ton autoportrait si on ne te reconnaît pas, si tu es travesti, si tu as un bonnet, si tu as pris 20 ans ou si tu t'es rajeuni de 40. Donc ça, c'est déjà vraiment rigolo. Et donc dans l'Antiquité et donc dans l'Europe chrétienne, c'est au Christ autant qu'à Narcisse que bien sûr tout peintre songe. Tu parlais du narcissisme et t'as pas faux. Et dans cette Europe, l'autoportrait ou le genre qu'est l'autoportrait a pour fondamentale référence ces images spectaculaires. Donc c'est la théorie qui justifie l'image et qui se rapporte autant qu'au mythe que fut l'invention de la peinture que l'autoportrait a à faire. Je sais pas si vous en avez bien compris ce que j'ai dit, mais enfin bon. Bref, c'est cette mémoire, donc on parlait de miroir, mais on peut aussi parler de miroir-mémoire, qu'il ne cesse de regarder, parce que quand on entend regarder, en fait, il y a re devant, c'est garder une deuxième fois. Donc, ça indique un mouvement en arrière, en fait, c'est une rétroaction. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est ce qu'ils appellent un retour et la réitération de quelque chose. Donc, cette mémoire qu'ici et maintenant et dans les siècles des siècles déchiffre un même regard. Donc on s'en fout que ce regard, cette âme, elle ait été peinte en 1749 ou cette autre en 1863 ou encore cette autre en 1582, 1450, 1889 ou aujourd'hui. Que ce soit celui de Fouquet, de Cézanne, de Rubens, c'est celoi de Vincent, c'est celui de Rembrandt, d'Ingres, de Botticelli, de Velázquez. Et c'est toujours la même intensité qu'on retrouve. C'est grave, surprise, serein, assuré, enfin, on ne sait pas, désespéré, indéchiffrable. Une présence de regard qui s'en fout complètement de la chronologie et qui s'en fout aussi complètement de l'histoire, l'histoire avec une majuscule. Pour c'est l'arc de triomphe sous lequel défilent les vanités, les désillusions, les espoirs bernés. Et c'est ça aussi qu'on peut voir. C'est vrai que c'est souvent des constats de tristesse et d'échec plus que des. On voit rarement un peintre dans toute l'allégorie de sa splendeur. Bon, c'est vrai que Vigée Lebrun s'est faite avec sa palette et son chevalet, c'est-à-dire l'artiste en train de peindre et qui est absolument sublime. Mais souvent, dans la peinture plus proche de nous, c'est vraiment le désarroi, le doute, une forme même des fois de trouble, de peur, comme on voit dans le fabuleux portrait de Gustave Courbet. Et on peut parler du coup aussi d'une forme de métamorphose. Parce que là, avec l'autoportrait, on se retrouve vraiment au seuil, à la lisière du monde matériel et d'un autre monde complètement incorporel, intemporel. Et il y a une réalité, c'est une réalité où finalement c'est mesurable, mais l'espace est comme un rêve. Et voilà, d'un côté et de l'autre du miroir, il y a comme deux ordres incommensurables, irréductibles. Et d'un côté, ça appartient au temps, et de l'autre côté, ça échappe au temps. Du coup, je pense qu'effectivement, on parle de vanité, mais il faudrait plutôt ressasser l'immortalité. Le miroir est comme un seuil, et l'autoportrait est un pareil seuil. C'est pourquoi je finirais par vous affirmer que l'enjeu de l'autoportrait est plus de l'ordre du fabuleux, de la transfiguration et de la métamorphose, la transformation. Du coup, elle est aussi une forme de métaphore de la lumière, une forme de métaphore aussi à la foi. Parce que finalement, un peintre, pour qu'il continue à peindre, il faut qu'il ait la foi. Donc, peu importe sa forme de religion, parce qu'en fait, sa religion, c'est l'art. Et l'autoportrait, c'est la métamorphose du peintre qui devient de la peinture. Moi, je trouve ça vraiment beau. C'est pour ça que j'aime bien les autoportraits. C'est vrai qu'on hésite à les faire parce que ce côté narcissique échappe pas. Mais je pense que ce visage qu'on offre à la postérité ou au regard des autres, qui peut être pudique comme un pudique, c'est vraiment une tranche de soi, une âme dévoilée. Et il faut le voir dans toute sa pureté et pas dans, plus dans ses vertus que dans son vice. Voilà, je pense que l'autoportrait qui perdure de siècle en siècle, au-delà des époques, au-delà des écoles, au-delà ou en dépit des règles, des normes, des styles, des académismes, des manifestes, est toujours la même, qui est inquiète d'une conscience individuelle, donc occidentale, à laquelle le temps qui flétrit et tue est vraiment intolérable. Et il y a une même nécessité de reconnaître que la peinture est un moyen de lui tenir tête, de lutter contre ça. Et sa disparition ne laisserait pas la moindre place au doute, c'est la disparition de l'homme même qu'il s'agirait alors. La fin de l'autoportrait, la fin de l'humanité. Bon, c'est vrai, c'est un petit peu grandiloquent, mais je trouve que c'est assez vrai. Moi, j'ai des grandes, grandes moments, enfin, c'est vraiment devant des visages que j'ai mes plus forts moments d'intensité émotionnelle. Les paysages ne m'évoquent rien. Je suis très insensible au paysage. Alors oui, quand j'ai face à moi une fenêtre sur un beau paysage, je sais reconnaître la touche, comment ça a été fait, le grattage, les outils, le couteau, ce qui a été utilisé pour donner le relief ou la rondeur. Mais rien ne m'émeut plus qu'un visage. Et dans ceux qu'on a pu étudier, eh ben, c'est sûr que Vincent Van Gogh ou Léonard amène une intensité qui est folle, quoi. L'intensité du regard qui me fait face, l'intensité qui n'est du ressort d'aucune psychologie, regard qui n'est ni halluciné, ni effaré, regard qui regarde, regard dardé, regard qui est celui du Tintoret, comme celui de Vincent Van Gogh, comme il est celui de Pollock. L'intensité de ce regard est parfois et souvent indéchiffrable. Et donc c'est la grande interrogation, qui suis-je ? Donc on en revient toujours là, c'est une question où chacun essaye de trouver des réponses et sans jamais vraiment les trouver. C'est pour ça que souvent on peut peindre aussi jusqu'à sa mort, et comme le Titien qui s'est fait en vieillard. Bon, c'est vrai que pour les garçons c'est plus facile de se voir vieillir. Moi j'essaye toujours de me donner quand même de la fraîcheur, le plus de fraîcheur que je peux, mais qui est peut-être pas ma fraîcheur physique, mais qui est sûrement ma fraîcheur psychologique et mentale. Et donc on va finir par une petite phrase de Léonard de Vinci, puisque la Renaissance va reprendre à son compte l'ambition humaniste, qui ne veut pas renoncer au nom de l'immortalité, donc de l'âme chrétienne, puisqu'on est à fond dedans, et aussi de la remise à jour et de la postérité de l'Antiquité. Donc Léonard dit « Le but du peintre est d'obtenir par son ouvrage la gloire, la reconnaissance et la bienveillance plutôt que de s'enrichir ». Donc voilà, je vais vous laisser sur la bienveillance de Léonard. Et puis je vais vite retourner finir mon autoportrait. S'il est présentable, je vous le montrerai à Barnave aux artistes. S'il est raté, eh ben voilà. Donc ça ne sera pas comme l'or tout paraît. Ça sera plutôt otaritu ou tout raté. Mais c'est vrai que c'est une difficulté. Après, je peux toujours travestir ma figure en celle de quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, remettre un masque par-dessus un masque, par-dessus un masque, par-dessus un masque, comme les gens ont trop tendance à le faire. Mais le but ici, c'est vraiment d'enlever le masque, et d'enlever le masque, et d'enlever le masque, et d'enlever le masque. Bon, là, je parle comme une schizo, mais...
Non, mais c'est vrai que ça peut être un exercice aussi de, justement, prendre confiance en soi, le pouvoir de s'accepter soi-même, de se regarder en face. Enfin, c'est... Comme on le disait, l'art a une forme de thérapie, et peut-être que tout dépend de ce que tu fais, ça va venir travailler des choses en particulier sur ta personnalité. Et c'est très chouette aussi. Merci à toi pour ta bienveillance. C'est pas que Léonard de Vinci qui est bienveillant.
Bah non, on est tous et toutes bienveillants.
Non, quand ça saurait si on l'était toutes et
tous. Après, c'est une question de choix. Hein. Je veux dire, tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein. Hein. Je veux dire, c'est qu'un justement regard sur porté sur les choses. Donc faut faire attention à ça. C'est pas difficile d'avoir des journées bien heureuses si tu décides d'être heureux aujourd'hui. Voilà, donc on va décider d'être heureux aujourd'hui.
Soyons heureux sur les ondes de RDWA.
Et donc on vous attend à Barnave aux artistes. Sachez que c'est chaud, chaud, chaud. Tout le monde est au taquet. J'ai eu tous les artistes. On a trouvé des petits endroits sympas d'implantation, des petits jardins, des petites cours en plus. Ça va être merveilleux. Il va faire beau. Vous allez être beau. Et voilà, et je vous invite à donc venir nous y rejoindre. On va faire au mieux pour votre plaisir, votre puis vous surtout vous surprendre. En fait, c'est un peu ça l'idée.
Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter l'émission qu'on a enregistrée autour de Barnave aux artistes, justement avec Natacha, vous pouvez la retrouver donc dans l'émission thématique de l'Artichaut. Hein, évidemment, c'était il y a 2-3 épisodes, je crois. Donc, en tout cas, si vous manque des infos, des détails sur Barnave aux artistes, n'hésitez pas à réécouter l'émission. Que vous retrouvez évidemment sur www.rdwa.fr.
Je vous aime. Au revoir les petits amoureux des arts et de la carotte. Des bisous. À la semaine prochaine.
Ah, des radios. Ben ça, il y en a. Mais des comme RDWA, il n'y en a pas.